Le nombril de Vénus, Juliana sur Canal B.
Bonjour tout le monde. Eh bien, autour de la table aujourd'hui, je suis en compagnie de Nina et de Blaise. Bonjour les filles.
Bonjour.
Très contente de retrouver cette équipe avec Nina, nouvelle dans l'émission, pour parler de livres. Aujourd'hui, nous allons parler des choses qui vous ont marqué, des livres que vous avez envie de raconter, de partager avec nous. Est-ce qu'on commence avec Nina, justement, puisque voilà, elle débarque dans le nombril de Vénus, on va faire place à la nouvelle.
Merci. Eh ben, moi, j'ai envie de parler d'un livre qui n'est pas si récent que ça, qui date de 2022, qui s'appelle Subtil Béton, qui a été écrit par un collectif qui s'appelle Les Agglomérés. Mmh. Et c'est un récit d'anticipation. Au début, je veux dire science-fiction, mais c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est vraiment un récit d'anticipation. Et moi, c'est ça précisément que j'adore, c'est-à-dire c'est un truc qu'on lit et on a l'impression que c'est aujourd'hui. En fait, il y a quand même quelques petits détails qui nous montrent qu'on est dans un futur assez proche. Mais du coup, c'est hyper réaliste et donc l'immersion dans le monde imaginaire est très très simple. Et évidemment, on est dans un contexte autoritaire, sécuritaire, où le monde va plus mal encore qu'aujourd'hui.
Tiens donc.
Mais l'écriture est assez incroyable. Ça a été écrit à plusieurs mains. Et pourtant, on le lit vraiment comme un polar. Et c'est pas du tout des écrivains ou écrivaines qui l'ont écrit. Donc déjà, c'est déjà que des femmes ou des personnes qui se reconnaissent comme femmes. Et vraiment, ça se lit comme un polar. Et donc, je sais pas comment elles ont réussi à obtenir un tel niveau en fait dans l'écriture, dans la fluidité de la lecture que ça occasionne chez le lecteur, la lectrice, mais c'est vraiment assez incroyable.
Peut-être ça s'est fait dans le cadre d'un atelier ou accompagné par un professionnel justement littéraire.
Et ben en fait, elle nous explique à la fin de leur livre, du coup, en quelques pages, la méthode qu'elles ont suivie pour arriver à ce résultat-là. En fait, elles ont réussi à écrire ça sur 15 ans. Donc c'est 15 ans d'ateliers d'écriture, de remalaxage d'écrits qui ont été écrits par les unes et repris par les autres. Et petit à petit, l'idée d'en faire un roman est arrivée, mais ce n'était pas du tout ce qu'elles essayaient de faire au début.
Et comment ce roman est atterri dans tes mains ?
Eh bien, assez marrant, je l'avais vu en librairie il y a, je pense, 6 ou 8 mois. Et parce que la couverture est hyper belle, elle est bleue, bleu électrique avec un plan un peu, c'est une carte hygiène, bleu et orange. Et j'avais envie de l'acheter, mais j'essaye de me restreindre et de pas acheter tous les livres que j'ai envie d'acheter, ça coûte trop cher, ou les acheter en seconde main.
Oui.
Et en fait, là, j'ai emménagé dans une nouvelle colocation, on a une grosse bibliothèque partagée, et il était là, donc j'étais trop contente de le retrouver, donc je l'ai pris, voilà, tout simplement.
C'est vraiment le genre littéraire que te plaît ?
C'est exactement le genre de littéraire qui me plaît. J'ai pas une énorme culture littéraire sur la science-fiction classique, mais et j'en ai pas lu beaucoup en fait de récits d'anticipation, mais vraiment se plonger dedans, c'est tellement simple et moi ça me parle. J'aime bien ces univers un peu technologiques, techno-surveillants. Là c'est que des femmes. Et ce qui est aussi assez impressionnant, c'est que ça parle beaucoup de politique. Donc c'est dans un contexte où il y a eu des grosses luttes qui ont été faites pour lutter contre un régime autoritaire qui se met en place. Ça n'a pas fonctionné. Donc là c'est un peu après la lutte. Comment on fait pour survivre, vivre, et aussi comment nos vies sentimentales, émotionnelles et nos vies de tous les jours, en fait, elles reprennent leur place, et comment on fait pour faire vivre tout ça et coexister tout ça. Donc c'est assez simple mais en même temps c'est un peu grandiloquent parce qu'on parle vraiment de lutte politique et d'événements qui chamboulent un pays et un peuple entier. Et elles le font d'une manière hyper subtile. Et d'ailleurs, ça s'appelle Subtil Béton, c'est peut-être un signe aussi.
Oui, alors je vais te donner un tips parce qu'en plus tu es nouvellement arrivée à Canal B, mais aussi à Rennes. Tu fais partie maintenant de l'équipe, dont la coordination notamment de l'équipe et l'antenne. Donc bravo et félicitations.
Merci.
Et bienvenue avec nous. Il y a une maison d'édition locale, rennaise, qui s'appelle L'Argile. Et donc tu vas probablement entendre parler d'eux si ce n'est pas encore le cas. Eux, ils sont aussi dans cette veine littéraire qui,
super,
vraisemblablement, tu nous parles, ça va te faire plein de choses, de les découvrir. Est-ce qu'il y a un personnage principal ?
Non, il n'y a pas de personnage principal. En fait, c'est un peu comme une anthologie. Chaque chapitre, c'est un personnage différent. Et aussi, chaque chapitre, c'est une façon d'écrire différente. Pareil, c'est hyper fluide en fait. Ça rajoute un petit style à chaque chapitre, mais c'est pas bloquant ou c'est pas un obstacle à la lecture, au contraire. Donc il y a plusieurs personnages principaux.
Qu'est-ce que tu as préféré là-dedans en fait? Parce que alors du coup on a presque le sentiment que ce sont des histoires qui s'enchaînent, qui continuent mais avec des plumes différentes ou alors une évolution. Ça suit jusqu'au bout quand même.
Ça suit jusqu'au bout. C'est pas vraiment, c'est vraiment une histoire collective. Mm-hmm. Même si c'est des personnages différents, c'est la même histoire un peu diffuse qui continue.
Mm-hmm. Le monde est le même.
Le monde est le même. Ouais. Le monde est le même et c'est des récits qui sont à un ou deux jours d'intervalle. Donc c'est vraiment une même histoire collective qui vit. Et en fait, ta question, c'est qu'est-ce que j'ai aimé dans cette méthode-là, ou le personnage
méthode, et même dans, enfin voilà, il y a quelque chose, tu as déjà dit pas mal de choses qui t'ont plu dans cet ouvrage, mais s'il y avait un truc essentiel qui t'a vraiment beaucoup marqué.
Je pense que c'est l'univers urbain, en fait c'est ça que j'adore, c'est la description d'un univers urbain qui est contre l'humain, parce qu'il est fait pour le contrôler, le maîtriser. Et en même temps, elles arrivent à se faire des, se sécuriser des lieux safe pour elles, qui sont dans la nature, mais tout en étant empreint de plein d'électronique, de plein d'appareils de surveillance. Et en fait, c'est vraiment ce côté urbain vs nature, avec la technologie un peu partout, qui moi me plaît et qu'elles ont réussi à super bien décrire, sans que ce soit trop compliqué non plus. Et oui, autre chose que je voulais dire, moi j'aime bien les récits d'anticipation comme ça, parce que on n'a pas besoin de comprendre tout un univers hyper compliqué, genre d'une Star Wars ou quoi, des gros trucs fantastiques de science-fiction. Là, c'est assez proche de nous pour qu'on puisse le comprendre. Et quand même, c'est très léché. Et je pense que ce qui fait que j'ai tant aimé cet univers-là, c'est le travail un peu topographique de cartes, parce qu'elles ont vraiment créé les cartes des villes, des endroits où elles se cachent, etc. Qui fait qu'en fait, on y croit, on est dedans. Et moi, je viens de la ville, j'aime la ville aussi, et du coup, j'aime le béton, je pense. Et c'est pour ça que j'aime ce livre.
Ouais, cool. Alors, tu voulais nous faire la lecture de la fin du livre ?
Ouais, alors c'est un morceau du manifeste où elles expliquent en fait leur méthode d'écriture. Et en fait, je conseille aux personnes qui veulent lire le livre de lire le manifeste après. Et ça tombe bien parce qu'il est à la fin de l'histoire. Mais c'est vraiment très éclairant sur la manière dont elles ont travaillé ensemble. Donc là, c'est très factuel et ça représente pas c'est pas du tout représentatif du style d'écriture ni de l'histoire. C'est juste éclairant sur elles, la manière dont elles ont travaillé. Chaque session s'ouvre par un moment de retrouvailles où nous racontons, tour à tour, notre vie des mois précédents. Ensuite seulement, nous commençons l'écriture, un thème malaxé pendant les 3 jours suivants. Et 2 ou 3 mois plus tard, une nouvelle rencontre, un nouveau thème. Nous expérimentons des jeux d'écriture et progressivement peaufinons une méthode qui devient notre marque de fabrique. Chacune écrit un premier jet, en moins de 10 minutes et sous forme d'anecdotes très concrètes, visuelles comme une scène de film. Ensuite, nous échangeons nos feuilles pour fabriquer un second texte, en nous appuyant sur celui que nous venons de recevoir, puis nous faisons à nouveau tourner et nous réécrivons encore et encore et encore. Dans les premiers jets, nous décrivons des moments vécus, des protagonistes et des décors connus. Subrepticement, le passage par d'autres mains fictionne le récit, met à distance les émotions tout en les enrichissant, propose critique ou secours à la situation. Cet exercice devient une étrange manière d'agglomérer nos expériences pour nous guider vers une écriture plus complexe, plus critique, plus poétique, plus fantastique. Et dans le même élan, l'écrit cesse de se vouloir authentique, intouchable, au prétexte qu'il serait question d'intimité, de personnel ou de don créatif.
Merci. Tu voulais dire quelque chose, Blaise ?
Non, pas particulièrement, à part que le livre a l'air très intéressant.
Ouais, tu m'étonnes.
Je pourrais te le prêter juste après.
Merci de ce partage. Allez, une virgule musicale et après on entend le choix de Blaise.
I'm
c'est un petit clin d'œil pour le festival Le Grand Soufflet qui se tient à Rennes en ce moment. Et c'était Aïta Mon Amour. Ils sont dans la programmation de cette année 2025. Une programmation très festive et très colorée pour leurs 30 ans. Waouh, tout était dit. Vous êtes sur Canal B, c'est l'émission Le Nombril de Vénus. Nous sommes en train de parler livres avec Nina et Blaise. Et là, notre collégienne préférée revient dans le micro pour nous parler d'une découverte. Qu'est-ce que tu vas nous raconter, Blaise ?
Bah, moi, je vais vous raconter un livre nommé L'apprenti épouvanteur, qui est Bayard Jeunesse, de l'auteur Joseph Delaney. C'est une histoire en quelque sorte d'action et mélangée un peu avec de l'horreur parce qu'il y a des scènes plutôt gore.
Oh yeah! Et t'as pas eu peur de tes 12 ans?
Non, parce que depuis que je suis toute petite, je suis habituée à lire des choses assez violentes.
Oui, c'est vrai. Je ne sais pas ce qu'ils font tes parents, mais ils devaient quand même être un peu éclairés là-dessus. Dis-moi alors, c'est quoi le fond de l'histoire?
Le fond de l'histoire, en fait, c'est un... L'auteur, il est interne à l'histoire, ça c'est bon à savoir. Autrement dit, il écrit à la première personne. Mmh. Et tout au long de l'histoire, en fait, c'est un peu comme une biographie. Il va nous raconter un peu sa vie, comment ça se passe. Il faut savoir que l'époque n'est pas vraiment précisée, mais pour donner un exemple un peu de repérage dans le temps, il n'y a pas de téléphone, il n'y a vraiment pas d'appareil électronique. Donc tout se fait à pied, à la marche, il n'y a pas de voiture. Et en fait, le jeune homme qu'on va suivre, donc l'auteur, il s'appelle Tom. Et il va se mettre à la place d'un jeune homme de 12 ans qui va commencer une carrière en tant qu'apprenti épouvanteur parce que c'est le septième fils d'un septième fils.
Un septième fils d'un septième fils d'épouvanteur ?
Non, pas d'épouvanteur. De parents qui tiennent une ferme et voilà.
D'agriculteurs, tout simplement.
Exactement.
Bon. Intrigant.
Et ça veut dire quoi, épouvanteur ?
Un épouvanteur, c'est comme un sorcier, en quelque sorte, qui a les dons un peu surnaturels et les moyens, les formes de pensée, pour en quelque sorte entraver des monstres.
Et pourquoi est-ce que ça tourne mal ?
Bah, parce que, en fait, en quelque sorte, le danger est omniprésent. C'est-à-dire qu'il y a des menaces partout et le but de l'épouvanteur, c'est de protéger tout le monde.
C'est une sorte d'héros. C'est marrant parce que tout à l'heure, on était vraiment dans l'urbain avec toi, Nina. Ouais. Et là, j'ai l'impression, ça se passe plutôt dans quel contexte ? Enfin, je vais dire, dans quelle géographie ? Est-ce que c'est partout ? C'est aussi dans l'espace urbain ? C'est dans la campagne ?
Bah, en fait, ça alterne entre espace rural et urbain. Mmh. Le personnage, donc, à la base, vu que ses parents tiennent une ferme, les premiers plans, les premiers passages se passent à la campagne, avec des visions sur la nature et autres. Mais après, l'épouvanteur va emmener son apprenti, du moins son futur apprenti au départ, pour voyager dans des villes. Ils vont passer de ville en ville, après de repaysages, de champs et tout ça. Enfin, en vrai, ça va alterner.
Bon, est-ce qu'on peut donner un exemple concret de quelque chose d'assez horrible qu'il y a dans le livre ?
Par exemple, un passage dans le livre, je sais que Tom va affronter une sorcière qui s'appelle Mère Malkin, et qui a pour réputation d'accueillir des femmes enceintes dans son auberge et de les manger avec leur bébé. Et en fait, par exemple, elle les éventre pour pouvoir récupérer le bébé à l'intérieur et elle utilise la magie du sang. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle mange un être humain ou qu'elle boit son sang, elle devient un peu plus forte.
Tu n'as pas peur de ça ? C'est de la science-fiction.
Oui, en soi, maintenant j'ai l'esprit un peu cadré, donc maintenant j'arrive à faire l'effet de transition entre le réel et l'imaginaire.
Ben oui, je m'en doute bien. Après, ça fout un peu la frousse quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des horaires particuliers où il faut éviter de lire ce livre pour ne pas être un peu trop chamboulé ?
Bah, en vrai, moi je me dis déjà rien que la nuit, c'est... Pour les gens qui aiment bien avoir plus de frissons, c'est mieux de le lire la nuit. Mais même sur la couverture, c'est écrit attention, histoire à ne pas lire la nuit.
Et d'ailleurs, c'est recommandé à partir de quel âge ?
Bah, c'est pas vraiment écrit sur le livre, mais c'est écrit, cet ouvrage comporte des scènes susceptibles de heurter la sensibilité de trop jeunes lecteurs. Alors je pense que c'est à peu près interdit au moins de 12 ans.
Oui, voilà, peut-être même 13-14, à voir. Quoi. À voir selon la sensibilité de chacun. Tu voulais nous lire un passage de ce livre ? Il s'agit de quoi exactement ?
Alors là, c'est un passage, donc on est sur le tome 1. En tout, il y a 13 tomes, il me semble, ou 15, je ne sais plus trop.
Ah oui, tu as découvert le premier récemment, alors?
Pas si récemment que ça, étant donné que là, je suis en 4e et que j'ai découvert ce roman en 6e dans mon CDI du collège. C'est la dame qui tenait le CDI qui me l'a conseillé. Mais bon, à la base, je n'avais pas vraiment l'âge requis, mais je ne sais pas pourquoi. Il est venu en ma possession, en tout cas.
Bon, de toute façon, ça ne t'a pas effrayé.
Et du coup, je vais vous lire un passage du début du livre où ça va être en quelque sorte le premier test que l'épouvanteur va faire passer à son élève. Parce qu'il faut savoir que l'épouvanteur va faire passer plusieurs tests pour savoir s'il est apte ou pas à être épouvanteur. Apprenti, en tout cas. Parce qu'il veut pas perdre son temps, l'épouvanteur. Eh bien, mon garçon, le travail m'attend. Je vais te laisser ici, je t'y reprendrai plus tard. Tu sais ce que tu as à faire ? « Non, monsieur, » répondis-je, en surveillant la flamme de la chandelle, qui vacillait dangereusement. « Je t'en ai déjà parlé, tu n'as donc pas écouté ? Sois attentif et cesse de rêvasser. Je ne te demande rien de bien difficile, » prétendit-il en se grattant la barbe comme si quelques insectes s'y promenaient. « Tu vas passer la nuit ici, seul. J'emmène tous mes apprentis dans cette vieille maison pour leur première nuit. Ça me permet de savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Ah ! Il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. » À minuit, tu descendras à la cave pour affronter la créature qui s'y tapit. Si tu réussis ce test, tu seras sur la bonne voie et je pourrai envisager de te garder. Des questions ? Des questions, j'en avais beaucoup. Mais les réponses m'effrayaient d'avance. Je me contentais de remuer la tête en essayant d'empêcher mes lèvres de trembler. Comment sauras-tu qu'il est minuit ? Je haussai les épaules. J'étais assez douée pour me situer d'après la position du soleil ou des étoiles. Et si je m'éveillais au milieu de la nuit ? Je pouvais deviner presque exactement l'heure qu'il était. Seulement, ici, je me sentais beaucoup moins sûre de moi. Dans certains lieux, le temps passe plus lentement, et cette maison m'avait tout l'air d'être cela. Je me rappelais alors la cloche de l'église. « Il est 7 heures passées, » dis-je. « J'attendrai que sonne 12 coups. »« Bien, » fit mon maître, avec un petit sourire. « Dès que la cloche sonnera 12 coups, tu prendras la chandelle et tu descendras l'escalier de la cave. En attendant, dors, si tu peux. » Maintenant, écoute-moi attentivement. Il y a 3 choses importantes que tu ne dois pas oublier. N'ouvre la porte de la rue à personne, quelle que soit l'insistance avec laquelle on frappe. Et ne sois pas en retard pour descendre à la cave. Il se dirigea vers la porte. Au moment où il sortait, je demandai. Et la 3e chose ? La chandelle, mon garçon. Quoi qu'il arrive, ne la laisse pas s'éteindre.
Alors Nina, ça te donne envie de connaître davantage?
Ça me donne envie, mais c'est pas assez gore pour l'instant, je
trouve. C'est vrai que... Mais bon, elle nous a quand même mis au parfum de quelques...
Oui, enfin, tuer une femme enceinte, c'est plutôt, ouais, plutôt gore.
Ouais, voilà, c'est dire. Plutôt pas terrible quand même. Hein. Là, le tome 2, il est disponible. Est-ce que tu envisages de le lire bientôt, Blaise?
Bah, faut savoir que le livre, je crois... Je ne sais plus trop en fait de quand il date, mais je sais que tous les tomes sont parus. Mmh. Donc oui, le tome 2 est disponible dans les librairies. Moi, je l'ai acheté chez Lowfire et j'ai déjà commencé à le lire et j'aime beaucoup.
Donc c'est parti pour que tu fasses peut-être toute la série, quoi.
Exactement.
Toi aussi, t'aimes bien lire des livres qui continuent dans la série, Nina ?
Ouais, mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, il me semble. Quand j'étais plus jeune, j'adorais les livres en série. Je lisais Nina, d'ailleurs, le titre d'une ballerine qui avait des histoires de cœur et des histoires de danse, c'était super. Puis il y avait Heartland et 4 filles et un jean, le banger de mes années quand j'étais plus jeune. Mais aujourd'hui, il y a moins de trucs auxquels je pense. Je vais commencer Dune après, je pense. Donc là, Dune, il y a pléthore de tomes. Mais oui, j'aime bien parce que quand on est à fond dans une histoire, on a juste envie que ça s'arrête jamais.
Voilà. Oui, c'est vrai, il y a de ça. Sinon, on peut aussi répéter le même auteur. Ça aussi, c'est pas mal, parce qu'on aime bien sa patte.
Non, une super série qui est impossible à arrêter, même si je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui n'accrochent pas ou n'accrochent plus. C'est Pierre Lemaitre, Au revoir là-haut et compagnie, et qui continue encore. Et moi, je trouve que c'est d'une facilité de lecture incroyable.
En tout cas, Blaise, ce que tu as partagé avec nous, on a bien aimé découvrir, hein. Sache-le. Merci beaucoup.
Intéressé.
Merci.
Thank you. volta pra você. Inconsciente, falei seu nome sem perceber. Num suspiro, riso, tiro minha alma daqui e a levo passeio pra perto de ti. Aquele peito que eu dormi, tão profundo que perdi o avião. Aquele braço que sempre tem um abraço que é tão bom e que eu sinto tanta falta. Sabe o que me mata? O tempo que não passa, o seu medo que extravasa, coragem que me falta pra admitir que eu sinto sua falta. Sabe o que me mata? O tempo que não passa, o seu medo que extravasa, coragem que me falta pra admitir que como eu tô sentindo agora, só você me fez.
Ferreira est également dans la programmation du festival Le Grand Soufflé qui est en train de se faire en ce moment à Rennes. J'avais envie de mettre des choses sur Le Grand Soufflé, tiens.
Bah ouais, qui ça commence bientôt, c'est les 30 ans, il faut. Et puis la programmation est incroyable. Donc
ouais, c'est vrai sûr. Que c'est chouette. 30 ans en plus, alors voilà, j'avais envie de parler d'un livre et après je me suis dit non, je ne vais pas parler de ce livre parce qu'elle est un peu sombre. Et en fait, je regardais Bah oui, mais là, on a parlé des choses très sombres. Hein. Ouais. Nina et Blaise, vous êtes allés bien dans le noir quand même. Hein. Et là, je me suis dit, tiens, je vais quand même amener un truc qui est sombre. Et je ne savais pas que vous alliez faire dans le sombre non plus, mais j'ai regardé donc le site web pour voir la programmation du Grand Soufflé et là, j'ai vu cette belle affiche de Grand Soufflé, très colorée, très vivante. Et je me suis dit, oui, d'accord, j'ai entre les mains un livre qui est éminemment sombre, mais qui est aussi partagé par moments avec quelque chose d'extrêmement coloré, parce que c'est l'histoire d'une peintre algérienne qui s'appelait Baïa et qui fait vraiment des tableaux très colorés, très beaux. Ça m'a renvoyé un petit peu à cette image que j'ai vue de l'affiche très belle des 30 ans de Grand Soufflé. Je me suis dit, si, je vais parler du livre de Kauter Hadimi qui est sorti cette année dans la collection Manouillon Musée chez Stock. Ça s'appelle La joie ennemie. En fait, chez Stock, ils ont cette collection, Manouillon Musée, et ils invitent des écrivains à passer une nuit devant une œuvre, devant un artiste, enfermé dans un musée. Mmh. Comme celui-là, par exemple, j'ai lu Lola Lafont, quand tu écouteras cette chanson, qui était un super beau livre. Et là, ce que je trouve intéressant, encore une fois chez Kauter Hadimi, tout comme j'ai aussi vécu dans ma lecture avec Lola Lafont, c'est qu'elle est allée pour un prétexte, pour rencontrer une œuvre, rencontrer une personne dans le musée. Lola Lafont avait choisi donc le musée de Anne Frank. Mmh. Et Kauter Hadimi, elle a choisi, parce que c'est sa 12e tentative, pour écrire sur Baïa. En 2018, elle avait été au musée Picasso, mais ça n'avait pas fonctionné comme elle voulait. Le texte n'est pas venu. Et là, elle a fait ça en 2022 à l'Institut du Monde Arabe. Donc, Kauter Hadimi, elle, est une écrivaine qui est née en Algérie et qui est toute petite, est venue en France à Grenoble dans les années 90, début des années 90, pour accompagner donc papa, maman, toute la famille, hein, trois enfants, la maman, le papa. Le papa, il est venu pour faire sa thèse. Mmh. Il s'est installé à Grenoble avec sa famille, donc avec peut-être l'objectif de rentrer en Algérie après sa thèse. Mais ça se passe dans les années donc 90, la décennie noire de l'Algérie. Et en 94, cette famille dont tout le monde priait de ne pas retourner en Algérie parce que l'Algérie était entre les mains de groupes islamiques armés, donc qui souffrent vraiment beaucoup d'attentats et de terrorisme. Et ils ont prié de ne pas rentrer en Algérie. Mais le papa, devait, de toute manière, rentrer en Algérie parce que cette thèse qu'il a soutenue à Grenoble, ses études ont été financées par l'armée. Mmh. C'est-à-dire qu'il avait un contrat avec l'armée et à un moment donné, il fallait qu'il rentre parce que sinon, il était déserteur. Et il n'est pas rentré seul, il est rentré avec toute sa famille. Et donc, La joie ennemie est le livre, si je peux dire, à l'auteur d'enfant parce que Kauter Hadimi, à ce moment-là, en 94, avait 8 ans. Et le lendemain de leur arrivée en Algérie, ils ont été en voiture pour changer de ville. Ils ont été confrontés à ce qu'on appelait à l'époque le faux barrage. C'est-à-dire que les terroristes avaient assassiné les policiers qui s'occupaient de barrage. Ils avaient pris leurs uniformes et ils étaient là. Et en fait, ils étaient là pour tuer à tout va les personnes qui les avaient bien envie. C'était très gore. Et donc, cet enfant dans cette voiture... C'est le début de son histoire dans ce livre qui a surgi en fait à l'Institut du monde arabe. Il fallait qu'elle aille chercher sa propre histoire, l'histoire de sa famille, pour pouvoir également raconter celle de la peintre algérienne. Donc voilà, ça fait quelque chose de complètement dualiste entre la beauté, mais aussi la vie difficile hein, de la peintre algérienne, qui était une jeune femme venue, propulsée par son art, soutenue, qui a rencontré les plus grands artistes de l'époque, dont Picasso. Eh bien, cette jeune femme non plus... n'avait pas spécialement une vie très très facile malgré la belle chance qu'elle a eue de vivre toute sa vie de son art. Elle était quand même propulsée ici en France pour rencontrer des gens adultes dans le milieu de l'art. Elle en avait que 16 ou 17 ans. Donc ce sont des histoires de femmes qui sont très fortes, qui se sont passées dans des contextes très différents, bien sûr, mais en même temps très forts également, entre la France et l'Algérie. Ce livre fait le lien, La joie ennemie, et je vous recommande vraiment avec beaucoup d'enthousiasme à le découvrir. En plus, l'écriture, elle est très belle. J'ai le temps encore de lire ? Non, je n'ai pas le temps de lire, mais... C'est pas grave, j'étais très bavarde sur le livre. Vous allez le découvrir vous-même. Ce que j'aimerais surtout, c'est de vous remercier toutes les deux, les filles, hein, pour ce beau partage, cette belle émission Le Nombril de Vénus qui a été faite avec vous, Nina et Blaise.
Merci à
Bravo
vous
à vous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
C'est la fin de l'émission Le Nombril de Vénus sur Canal B.
Pour ma part, je vous souhaite un excellent week-end. Allez, bisous. Bye.